proposer ensuite. Et, mais il faut dire, c'est intéressant de remarquer, qu'il y a une version de cette fugue-là d'époque d'un luthiste, Johannes Weiler, si je ne m'abuse, c'est à confirmer, mais qui avait dans tous les cafés des interventions au-delà du contrepoint de Bach. C'est-à-dire que c'est une version où ce n'est plus tout à fait Bach. Il y a eu un luthiste qui a, lui, fait un arrangement, un véritable arrangement, et j'ai préféré quand même le texte de violon qui me paraît plus intéressant.
Bien, on va l'entendre, Diego Salamanca, cette fugue juste après le prélude de la partita en ut mineur BW 997, votre disque entièrement consacré à Bach. En plus, il y a des très belles photos que vous avez prises vous-même. Donc, je vous encourage à aller voir ce très bel objet et en plus ce magnifique répertoire.
Thank you.
La fugue de la première sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach et avant ça le prélude de la partita en ut mineur BWV 997. Merci beaucoup Diego Salamanca d'être passé dans Génération France Musique le live et puis votre disque Jean-Sébastien Bach est déjà disponible avec vos photos dedans.
Absolument. France Musique.
Le compositeur finlandais Magnus Lindberg est né en 1958. Sa musique résonne aujourd'hui sur les scènes du monde entier. Si vous ne connaissez pas ce compositeur, vous ne savez pas ce que vous allez entendre aujourd'hui. Si vous le connaissez, vous savez peut-être qu'il a écrit de grandes pièces pour orchestre. C'est d'ailleurs surtout pour ses grandes fresques orchestrales qu'il est aujourd'hui connu. Et pourtant, la musique de chambre n'est pas absente de son catalogue. Et c'est ce qu'on va entendre avec le duo Neve, composé de la violoncelliste Fiona Robson et de la pianiste Elsa Bonnet. Elles vont nous faire entendre une pièce dans son intégralité qui s'appelle Santa Fe Project. D'ailleurs, le musicien l'a créé, l'a joué lui-même, qui est pianiste. Et donc, c'est l'occasion de découvrir cette grande œuvre d'à peu près un quart d'heure.
Thank you.
Santa Fe Project et le duo Neve, Magnus Lindberg est l'auteur de cette grande page pour violon et piano que vous avez peut-être découvert grâce à ces deux musiciennes, Elsa Bonnet au piano et Fiona Robson au violoncelle. Alors dites-nous comment vous êtes arrivée à l'univers de Magnus Lindberg. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure qu'un compositeur qu'on associe comme ça tout de suite à l'orchestre, qui pourtant vous laisse une très belle pièce.
Alors c'est moi qui je l'ai rencontré en fait à un festival de musique contemporaine, Creative Dialogue France, et j'ai travaillé un peu avec lui, son trio à cordes, et j'ai tout de suite tombé amoureux avec son langage musical, et lui il est tellement généreux et gentil comme personne. À la fin du festival, il m'a donné la partition de cette pièce en disant « Tiens, si tu veux l'apprendre, je voulais l'apprendre ». Et donc j'ai proposé à Elsa qu'on le découvre ensemble et c'est comme ça qu'on l'a amené jusqu'à vous.
Et Elsa qui a une belle partie de piano, puisque j'ai dit Magnus Lindberg, son premier instrument, c'est le piano. Et j'imagine, alors Diego Salamanca nous a dit que ce n'était pas l'instrument de Bach, le luth, mais alors là, le piano, il vous offre une partie d'un instrument qu'il connaît bien.
Oui, c'est très très bien écrit pour le piano. Il y a en effet une fascination pour la virtuosité, on le voit aux cadences dans les deux instruments, le piano et le violoncelle sont à égalité. Et c'est une partition qui peut faire un peu peur au premier abord, mais ça tombe sous les doigts, c'est assez impressionnant. Et je crois qu'au violoncelle, c'est assez agréable aussi. Et en coulisses, Fiona me disait, mais c'est une musique que j'ai envie de manger. Je pense que c'est une bonne image pour le fait que ce soit si agréable à jouer, en fait.
Ouais. Vous avez enregistré cette pièce, est-ce que vous l'avez soumise à Magnus Lindberg?
Oui. Oui, il est adorable, il nous a envoyé un petit mail et il nous a dit qu'il aimait beaucoup ce qu'on faisait, donc on était très fiers.
Parce qu'il l'a enregistré lui-même, cette œuvre.
Oui, il l'a enregistré avec une violoncelliste finlandaise qui s'appelle Anssi Kurtnen. Personnellement, j'évite de trop écouter mais pour avoir une version qui nous est propre, mais c'est en effet la seule version qui existe.
Voilà. Ça sera donc la deuxième que vous nous offrez. Ça, c'est un très beau cadeau. Cette musique d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir travailler avec des compositeurs. Est-ce que c'est l'ADN du duo Neve?
C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Oui, c'est pas que ça qu'on fait, mais justement, la saison prochaine, on travaille sur une pièce qui a été écrite pour nous par le compositeur canadien Christopher Goddard. C'est une pièce que j'ai déjà jouée au Canada, mais ça va être la création européenne avec Elsa. Et c'est une pièce qu'il a écrite d'après 5 tableaux de son grand-oncle qui est peintre. Et nous, cette idée d'une inspiration entre les arts, entre le visuel et le son, ça nous a beaucoup inspirés. Et donc, on a construit tout un programme autour de ça qu'on s'appelle Images. Et c'est toute la musique qui a un lien soit littéral, soit plus métaphorique avec l'image.
Elsa, vous voulez rajouter ?
Oui, nous, donc c'est un programme qui mêle les œuvres de Chopin, Debussy pour une évocation visuelle plutôt qu'une description visuelle. Cousin et Goddard, avec un accent moins bien que Fiona, mais voilà.
Fiona, vous êtes canadienne et la scène canadienne contemporaine est extrêmement riche et puis alors extrêmement bien enregistrée aussi par les labels du pays. J'imagine que. Est-ce que c'est comme ça, par tous ces compositeurs, que vous êtes arrivée à la musique contemporaine ?
Ouais, un peu. Moi, j'ai toujours aimé la musique contemporaine. J'en ai fait pendant mes études à Montréal et au CNSM. C'était souvent en orchestre qu'on a découvert la musique contemporaine. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais.
Et vous, Elsa ?
Oui, comme disait Fiona, ce que j'aime beaucoup, c'est le principe de la page blanche. C'est qu'on est vraiment libre de faire ce qu'on veut et ça me plaît énormément.
Alors, à venir pour toutes les deux des actualités, Fiona Robson, on vous entend avec le Quatuor Magenta.
Oui, exactement. Donc, je joue jamais toute seule. Je suis soit dans le Quatuor, soit avec Elsa. Et avec le Quatuor Magenta, en ce moment, on prépare le concours international de Quatuor à cordes de Banff. Donc, on va revenir à mon pays natal cet été. Donc, on travaille à fond pour ça.
Et vous, Elsa, un disque, enfin en tout cas un enregistrement qu'on va pouvoir entendre sur toutes les meilleures plateformes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, dites-nous.
Je m'apprête à sortir un premier album qui sera avec des œuvres de Haydn, Schumann et Debussy, et c'est un projet que je porte depuis 9 mois, donc c'est un bébé en fait. Et il s'apprête à sortir probablement la semaine prochaine sur toutes les plateformes imaginables sur Internet.
Et dans le grand répertoire, il y a une œuvre que vous aimeriez nous faire découvrir dans les mois à venir ? Ah, c'est une colle.
Dans le grand répertoire, le prochain qui n'est pas contemporain qu'on va commencer à explorer ensemble, c'est le sonate de Chopin.
Oui, tout à fait.
Ah, bon, et bien écoutez, il n'y en a qu'une au moins, ça va vite. Merci beaucoup à toutes les deux du duo Nubé, Fiona Robson et Elsa Bonnet. On peut vous applaudir.
Génération France Musique Bleu Live, Émilie Munera.
En 2022, dans son premier disque, l'ensemble Léviathan nous faisait découvrir Lady Louise, un agent double de l'histoire qui fut la maîtresse du roi d'Angleterre tout en étant espionne à la solde de Louis XIV. Incroyable histoire. Et c'est une autre femme qu'il nous propose de découvrir dans leur troisième opus, une certaine Anne Bracegirdle, immense actrice et chanteuse qui a littéralement fasciné le public londonien du XVIIe siècle en brûlant les planches des théâtres et en interprétant des mat songs. Eugénie Lefebvre et l'ensemble Léviathan de Lucile Tessier font revivre cet artiste hors norme de l'époque dans un programme que vous allez tout de suite entendre. Ensemble Léviathan, Lucille Tessier, Eugénie Lefebvre, Sébastien Mar, Julie Dessin, Louis-Noël Bestion de Camboulas pour ses musiques, John Weldon, Henry Purcell et John Eccles. Alors, mesdemoiselles Lucille Tessier et Eugénie Lefebvre, avant de parler de l'héroïne qui est au centre de votre disque, on peut peut-être faire un petit point musicologique sur la situation des théâtres à l'époque à Londres. Où sont les femmes au milieu du XVIIe siècle, Lucille ?
Alors, c'est une période qui est très intéressante puisque les femmes étaient interdites des scènes londoniennes toute la première moitié du XVIIe siècle. Et grâce à un édit du roi, en 1660, elles ont eu le droit de monter sur scène. Et donc, c'est là qu'on a vu apparaître des actrices qui ont fait des grandes carrières, qui étaient extrêmement connues comme les stars de cinéma d'aujourd'hui, dont notre Anne Bracegirdle.
Alors, qui était-elle justement, cette Anne Bracegirdle ?
C'était une actrice chanteuse. En fait, à l'époque, on n'avait pas sur les scènes de théâtre, on n'avait pas d'actrice pure ou de chanteuse pure. On avait toujours un mélange. Les acteurs étaient formés aux deux. Et Anne Bracegirdle est née dans une famille d'acteurs. Et elle a été donc élevée dans le théâtre. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a fait sa carrière jusqu'à devenir co-directrice d'une compagnie de théâtre, ce qui était très rare à l'époque. Donc elle avait des parts dans la compagnie, elle prenait des décisions, elle faisait partie des prises de décision de ce qui s'écrivait comme pièce ou ce qui pouvait se faire dans sa compagnie en tout cas.
Et alors ces chanteuses actrices de l'époque faisaient tourner les têtes du public londonien finalement, on les aimait, on les détestait, c'était pire que les stars internet d'aujourd'hui finalement.
Oui, il y avait beaucoup, il y avait déjà des gazettes à l'époque, donc il n'y avait pas internet mais il y avait des journaux qui racontaient notamment la vie privée de ces actrices qui étaient très documentées. D'ailleurs, il y a eu un moment où on a même dû interdire les visites dans les loges des théâtres, puisque des membres du public, des hommes, pour ne rien vous cacher, allaient visiter les actrices et parfois n'étaient pas forcément très sympas avec elles. Enfin, il y avait des histoires comme ça. Donc, pour les protéger, on a dû interdire l'accès aux loges. Et Anne Bracegirdle a joué, en fait, de cet aspect gossip, on va dire, puisqu'elle a incarné des rôles principalement de femmes folles, de femmes trahies, de femmes amoureuses, où elle déchirait ses vêtements sur scène avec des choses très passionnées. Et elle a eu une vie privée extrêmement chaste. Donc elle n'a jamais eu d'amant ni de protecteur, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Elle est toujours restée célibataire jusqu'à ce qu'elle se marie. Et elle a une vie tout à fait traditionnelle. Et donc, en fait, le public de l'époque devenait fou, essayait à tout prix de trouver des histoires sur elle, elle n'en trouvait pas. Et d'ailleurs, elle a fait une sorte d'alliance, de binôme, avec une autre actrice qui s'appelle Elizabeth Barry, qui, elle, était spécialisée dans les rôles de méchante et qui, elle, avait une vie extrêmement dissolue, on va dire, avec beaucoup d'amants et tout ça. Donc, elles ont consciemment formé ce binôme qui leur attirait beaucoup de publicité.
Alors c'est sympathique, donc les femmes avaient les rôles de méchantes ou de folles, finalement, à cette époque, puisque c'est les mad songs qui sont écrites pour elles et qui sont nées, finalement, lorsqu'elles ont pu monter sur scène. Dites-nous, Eugénie Lefebvre, on a vu, c'est un répertoire où il faut autant chanter que jouer, et puis il ne faut pas avoir peur d'en faire beaucoup avec sa voix, peut-être que ça soit un peu sale parfois.
Oui, c'est ça. On cherche pas la beauté du son. C'est vraiment le mot qui prime et la théâtralité. Donc c'est vrai qu'avec Lucille, on fait ce répertoire depuis vraiment longtemps maintenant, peut-être une petite dizaine d'années. Et on a vraiment créé une sorte de laboratoire ensemble où on se fait confiance aussi, de se dire cherche des sons. Là, on pourrait inventer ça. Vas-y. Lâche tout ce que t'as en toi, et si jamais c'est trop, je te le dirai, et elle me le dit jamais. Donc, j'y vais, moi.
Parce qu'en plus, ces scènes de folie, puisque ce sont des matsongs, donc souvent des scènes, un peu folles, il n'y a pas que le côté tragique, il y a parfois le côté comique, ça peut aussi montrer énormément de différentes facettes d'une voix, faut pas croire que c'est toujours hurler pour être folle.
Non, on peut être folle en pleurant, on peut être folle en rigolant, on peut être folle, parfois, en criant un peu fort, mais effectivement, il y a plein d'aspects. Après, dans le disque aussi, il y a des duos aussi comiques avec David Witzak, et on s'est beaucoup amusé où je dois lui donner des claques et tout ça. Donc c'était vraiment c'était du théâtre. On était sur scène, donc en fait il y avait plein de situations différentes à chanter et surtout à montrer et à faire comprendre au public et que le public réagisse. Il était très proche.
Puis c'est aussi l'occasion de découvrir John Nicholls, qui est ce compositeur dont on connaît le Mad Lover, d'ailleurs qui est souvent joué au violon, cette pièce violon clavecin. Enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et là, c'était son compositeur préféré finalement, à Anne.
Oui, en fait, ils ont aussi fait une sorte de partenariat commercial, au sens où en fait, les premières chansons par lesquelles a été connue Anne Brice Gurdel étaient écrites par John Nicholls. Et donc, comme elle a été connue par lui, elle n'a plus voulu ensuite chanter que des airs écrits par lui. Donc ça, c'est très particulier à cette chanteuse. Et Nicholls s'est fait aussi connaître par donc Anne Brice Gurdel, qui était de plus en plus connue, et ainsi, ils ont pu faire leur carrière à deux.
Merci beaucoup pour cette découverte. C'est un superbe disque qu'on diffusera d'ailleurs prochainement sur France Musique dans Ampice, qui sera disque du jour parce que c'est un disque à connaître et à découvrir. On vous laisse poursuivre avec justement John Nicholls, mais aussi John Weldon, l'ensemble Léviathan. L'ensemble Léviathan, vous pouvez retrouver ce programme sur un disque, Mad Virgin Jair, je crois, s'appelle le disque, si je ne me trompe pas, et il est aussi beau que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Merci à eux, et vous avez entendu la musique de John Eccles, puis de John Weldon, et à nouveau John Eccles, qui était donc le compositeur tant aimé par Anne Bryce Griddle, qui est au centre de ce disque. Merci à tout le public de l'Alliance française d'être venu ce soir à nos côtés. Vous pourrez retrouver les vidéos sur le site de France Musique. L'émission est également podcastable. Dans quelques instants, c'est Jérôme Badini pour les légendes du jazz avec Youssef Latif à Paris en 1979. Concert. Et puis pas de live, je vous rappelle, la semaine prochaine, mais le dernier best-of de la saison. Et vous aurez donc le dernier live avec Clément Rochefort le 28 juin que vous pourrez donc retrouver. Vous pourrez lui dire tout ce que vous voulez pour lui souhaiter de très bonnes vacances. Merci beaucoup à Xavier Lévesque, Ange Duc, Mathieu Tourin, Tahar Bouklifa, François Bory, Thomas Moisan, Cédric Després, Elsa Fauvel, Paul Blanc, Paloma Fayet, Laurent Tarot et Xavier Carrère et Jean-Claude Mullet. Merci encore à vous. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de France Musique.
Génération France Musique, le live, avec le soutien de la Fondation Nationale Banque Populaire, engagée aux côtés de la nouvelle génération de musiciens et compositeurs.
France Musique, Jazz Club, Nathalie Piolet, le samedi à 19h.
Ce samedi, un souffle venu du Nord, irrésistiblement lyrique, irrésistiblement moderne, le trompettiste finlandais Verneri Pohjola viendra, avec son quartet, illuminer le studio 104 de la Maison de la Radio en direct dans Jazz Club.
Jazz Club, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'application Radio France. France Musique, samedi à l'Opéra, à 20h, Judith Chen.
Le triptyque de Puccini est à l'affiche de la soirée lyrique. Rendez-vous à 20h pour redécouvrir ce chef-d'œuvre dans un ordre chamboulé mais si pertinent, Giannis Kiki, Il Tabarro et Suor Angelica. Une soirée proposée par l'Opéra de Paris qui va de l'enfer au paradis, emmenée par le chef Carlo Rizzi et l'incandescente Asmik Grigorian dans les trois rôles féminins. Branchez-vous.
Samedi à l'Opéra, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
France Musique augmentée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et restez connectés à France Musique avec nos newsletters, les programmes, les événements et toute l'actualité musicale dans votre boîte mail.
France Musique. Vous êtes sur France Musique, il est 18h, vous retrouvez les légendes du jazz de Jérôme Badi.